Attends, les pauvres, on va pas les fêter tous les ans non plus. Faut pas les conner. Alors, l'anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre, on laisse tomber cette année, ok? Et puis, 51 ans, ça ressemble à quoi, hein? C'est bidon. Non, les pauvres, ils ont qu'à attendre les 60 ans maintenant pour qu'on les fête. En plus, ça sera mieux. Parce qu'en 2014, il n'y aura plus que des pays pauvres. Et ça donnera à la fête un caractère beaucoup plus universel. Le 1er février 2014, tous les gouvernants riches de tous les pays pauvres du monde feront une belle cérémonie, comme à Auschwitz, pour commémorer les 60 ans de l'appel de l'abbé Pierre, avec de beaux discours et des pots de gerbes sur la tombe de l'abbé Pierre à la mémoire des pauvres disparus. Non, non, les pauvres disparus, ça veut pas dire qu'il y aura plus de pauvres. Quand j'ai dit à la mémoire des pauvres disparus, je parle de ceux qui seront déjà disparus, qui seront morts de pauvreté, quoi.
C'est un répondeur thérapeutique. C'est un répondeur cathartique. Paternel, mais pas paternaliste. Sur le fil du rasoir, au fil des ondes, des voix défilent, des voix éclatent. C'est un écho et un oracle. Les voix se tissent, se métissent. Une tapisserie qui renaît à chaque émission. Christophe Imbert, vous auriez pas été Pénélope dans une autre vie par hasard?
Un jour, il y a de ça fort longtemps, une fracture énorme eut lieu, dont l'épicentre se trouvait loin sous la surface, au cœur de la France d'en bas. Les frictions, les ballottements et les forces grandissantes du mépris et de la déconsidération avaient eu raison de l'apparente inertie des strates. Les couches avaient violemment explosé, à bout d'arguments, l'écorce avait cédé, générant un mouvement d'une amplitude et d'une énergie inouïe dont les conséquences dévastatrices ne tarderaient pas à se faire sentir. Loin au-dessus, voguant sur la surface des choses, au large de la réalité, les dirigeants gouvernant avec fermeté et paternalisme ne sentirent pas les vagues passer. La lame de fond leur glissa sous les pieds à vive allure, mais fidèles à leur aveuglement, ils avaient méprisé les signes et négligé les avertissements. Leur retour au rivage en fut d'autant plus brutal. Là, sur les berges dévastées, ils observaient ahuris et impuissants les vestiges d'un monde qu'ils ne reconnaissaient plus. Leurs valeurs et leurs certitudes jonchaient le sol comme autant de débris, déchirant les reliefs tourmentés de ce qui fut leur microcosme, autrefois si sûr, si prévisible, si confortable. Maintenant, ils payaient les pots cassés et ça n'était pas au programme. Dans leur passé absolu libéral, dans lequel régnait la loi du plus fort, ils s'étaient arrangés pour être du bon côté de la barrière. C'était de bonne guerre. Ils méritaient forcément d'être au-dessus du panier et tant pis pour les autres qui n'y étaient pas arrivés. Les autres, ceux qui avaient tout perdu lors de la grande fracture et ceux qui, bien avant déjà, n'avaient plus rien à perdre, allaient et venaient, pleuraient, s'étreignaient, déblayaient et s'affairaient déjà à construire un monde nouveau qu'ils espéraient enfin meilleur. Tout était tombé, donc tout était à refaire et tout était possible. Alors, pourquoi pas remettre un peu d'équité et d'humanité et de fraternité dans ce nouveau monde? Mais déjà, certains s'imposaient, jouant des coudes pour ne défendre que leurs propres intérêts, prêchant le mérite et la fatalité. Mais c'est là, précisément, que le changement eut lieu et qu'un nouveau monde émergea. Contre toute attente, les rescapés se détournèrent des prêcheurs néolibéraux et rejetèrent les anciens principes égoïstes, reconnaissant qu'ils avaient causé la perte du monde ancien. La solidarité serait désormais la pierre d'angle de cette nouvelle époque. À quelques pas de là, les anciens gouvernants, toujours bras ballants, fidèles à leur aveuglement, n'avaient de cesse de poser la question. Mais pourquoi cette chose-là ne l'avons-nous pas vue arriver? À tous les gains petits, Vicente Mamakul Baichette.
Oui, bonjour, c'est François Pézenas. J'ai écouté avec intérêt votre émission d'hier, là, sur la salle de muscu. J'ai trouvé les personnes interrogées, les personnes interviewées intéressantes, mais pas vraiment révoltées. Je suis révolté pour eux, par contre. C'était François Pézenas. Au revoir.
Je voulais réagir par rapport à ton émission d'hier. On entendait un jeune parlant de l'intérim et disant que ça faisait 20 mois qu'il était en intérim et qu'il n'avait pas été embauché. Je veux pas le décourager, hein, mais moi je peux témoigner de ma maman qui est restée 7 ans intérimaire. Et intérimaire, c'est-à-dire qu'elle travaillait tout le temps, voilà, mais elle est restée en intérim, donc il a embauché quand même au bout de 7 ans. Là, elle entame sa troisième année, et puis maintenant ils veulent qu'elle parte à la retraite, voilà. C'est parce qu'en fait, généralement, des grands groupes, des grandes entreprises qui embauchent des ouvriers dans les usines, ils trouvent un certain bénéfice à embaucher des intérimaires, surtout Nestlé, hein, pour pas les nommer.
Bravo pour les émissions, en particulier celles consacrées à la solution finale. Merci d'avoir appelé que les Tziganes en ont été les grands oubliés dans les reportages. Aujourd'hui encore, l'État français les ignore. Des terrains pour nomades leur sont réservés, mais loin des centres vitaux, c'est-à-dire écoles, commerces, administrations. Le pire est que ces terrains sont sans eau, sans électricité. Venez voir dans quelle misère vivent depuis des décennies, c'est-à-dire naissent, grandissent et meurent, des familles sur les terrains de nomades dans le Cher. On les y rejette loin des villages, en craignant qu'ils soient nés voleurs, alors que d'après les statistiques de la gendarmerie et de la police, le pourcentage de délits chez eux est nettement inférieur à celui des sédentaires. Ces nomades ne pouvant guère vivre des petits métiers d'autrefois, dès qu'ils le peuvent, se sédentarisent, pleins de courage, en plantant leur caravane dans leur cour ou leur jardin. Je suis ces familles depuis quelque temps et je peux vous dire que leurs maisons sont très bien entretenues, les enfants très suivis sur le plan scolaire et que les jeunes travaillent dès qu'ils en ont l'âge. De braves gens qui se sédentarisent quand ils le peuvent, respectant leurs traditions. Mais ces terrains pour nomades, sans eau et sans électricité, demeurent vraiment une honte pour la France.
Oui, bonjour, c'est Annie de Quimper. Je viens réagir à votre émission de vendredi concernant le sort des Tziganes lors du Second Conflit mondial. Alors, la plupart des historiens parlent de massacres à grande échelle, non d'un génocide planifié. Il n'en demeure pas moins que l'immense souffrance juive ne doit pas exclure la souffrance de tous les déportés, quelle que soit la cause de leur déportation. Je voulais aussi vous citer le texte de Vassili Grossman, un écrivain russe. Voilà ce qu'il disait à propos des camps de concentration. « Les fascistes ont créé un grand bagne universel, pan-européen, et pour se faire obéir des bagnards, ils ont construit une immense échelle de l'oppression. Voilà les degrés de l'échelle du bagne. Plus on descend, et plus il y a de sang, d'esclavage et de sueur. Et tout en bas de cette énorme prison à plusieurs étages se trouve un gouffre auquel les fascistes ont condamné les juifs. Leur destin doit terroriser l'ensemble du bagne européen pour que chaque destin, aussi effroyable soit-il, paraisse un bonheur comparé au sort des juifs. C'est une simple arithmétique de la cruauté et non une haine spontanée. » Voilà, je voulais vous faire part de cet écrit très important. Vassili Grossman, c'est dans son livre « La route » paru chez Julliard. Voilà, salutations à tous.
Toujours beaucoup de messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, suite aux émissions que nous avons consacrées aux Tziganes, aux homosexuels dans la solution finale, mais aussi, bien sûr, suite à cette formidable fabrique de la mémoire et fabrication aussi de la mémoire à laquelle nous avons assisté et nous assistons toujours à l'occasion du 60e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Une interprétation d'un grand écrivain, Vassili Grossman, et qui nous a rappelé une série d'émissions que nous avions consacrées à Stalingrad. Nous étions allés avec Aude Merlin à Volgograd sur les traces et sur la mémoire de cette incroyable bataille de Stalingrad qui avait été le point charnière, le point où l'histoire a basculé. Et à Volgograd, c'est le nom aujourd'hui de Stalingrad, nous avions rencontré Galina Alexandrovna, qui nous avait raconté une histoire singulière, d'une façon, vous allez voir, parce qu'on va la retrouver, très très distanciée, sans pathos, et pourtant c'est une histoire tout à fait pathétique que la sienne, et une histoire méconnue, celle des soviétiques à Auschwitz. On dit que ce camp, on l'a assez dit et répété, a été libéré en 1945 par les soviétiques, par l'armée rouge, mais on oublie très souvent que les premières victimes du gazage à Auschwitz, suite, après le gazage des malades mentaux, fut les soviétiques. Des prisonniers de guerre soviétiques ont été gazés dès 1941 à Auschwitz. Les premières expériences de gazage ont été faites sur ces hommes, ces femmes, et on va le voir, sur ces enfants-là. Et comment Galina, que nous avons rencontrée 60 ans après, à Volgograd donc, a pu survivre. C'est notre sujet du jour. On a eu des messages aussi sur le reportage d'hier, sur la musculation à Amiens, dans ce petit club de gars qui se musclent. C'est un reportage de François Ruffin. Des réactions aussi là-dessus. Et puis d'autres messages, on va prendre un peu de temps aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de messages auxquels vous tenez qui sont des fois un peu longs. Là, on a un peu plus de temps aujourd'hui, donc voilà, vos messages en longueur, disons, sur le répondeur de la bête si j'y suis, dont je rappelle le numéro 01 56 40 37 37, après quoi Stalingrad et Galina.
Bonjour Daniel, c'est François Jabinet, là, ton auditeur habituel. Je te remercie pour cette émission, c'était très intéressant, la commémoration. Pour éclairer la question à laquelle l'auditrice qui était handicapée se posait, il faut savoir qu'effectivement, les handicapés physiques, mentaux de naissance ont été éliminés. Cela s'appelait le plan T4. Le plan T4 consistait à éliminer toutes les bouches inutiles, c'est-à-dire les handicapés mentaux physiques. Et également, une chose qu'il ne faut pas oublier, les handicapés physiques et mentaux qui avaient été blessés même après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient des médailles militaires, des très hautes distinctions militaires, qui ont été éliminés parce que ils étaient devenus inutiles.
Oui, bonjour Daniel Mermet, bonjour là-bas si j'y suis, ici Francine de Gérardmer. Voilà, aujourd'hui c'est le 313e jour que Madame Benedetta Bertica, réfugiée albanaise avec ses deux enfants, est maintenue en situation irrégulière par Monsieur le préfet des Vosges et le de Villepin, qui refuse de lui délivrer une carte de séjour en dépit des instructions formulées le 22 mars 2004 par Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Il apparaît nettement que Madame Bertica et ses enfants sont des victimes innocentes de lutte d'influence au sein de l'UMP. Tant qu'ils sont otages, nous le sommes aussi, ne les oublions pas. Au revoir.
Salut là-bas, si j'y suis. Demain, j'y serai. Nous y serons tous. À l'appel du réseau Éducation sans frontières, rassemblement organisé par le collectif Solidarité Migrants, à 16h devant la mairie de Beauvais. Dans l'Oise, ici, là-bas, dans toute la France. Monsieur Hennès, son nom est trop répandu. Hennès, ses initiales, que l'on peut également traduire par non souhaité, ou autre, à vous de choisir. Monsieur Hennès, donc, ou monsieur de Villepin, suivent parfaitement la cohérence concernant la future loi d'orientation de l'éducation nationale. Celle-ci veut escamoter des matières étiquetées non fondamentales. Il est vrai qu'en éducation civique, expliquer les notions de liberté ou d'égalité risque de devenir un exercice de haute voltige. À Beauvais, comme ailleurs, il ou elle s'appelle Catherine, Youssef ou Boukari. Ses élèves vont comme tous les autres en classe. Mais un jour, faute de papier, ils disparaissent, devenus clandestins, sans papier. On ose imaginer leur avenir de clandestin. Travail clandestin, endoctrinement en tout genre, délinquance, prostitution. Il faut bien vivre, ou plutôt survivre. Leurs camarades en classe, eux, se doivent d'oublier, au risque de rechercher vainement, la signification des valeurs inscrites au fronton de nos mairies. Parce qu'il faudra bien qu'un jour, la souveraineté du peuple reprenne ses droits. Tous ses droits. Mobilisez-vous et soyons nombreux à Beauvais et devant chaque préfecture de France, mercredi 2 février, un jour de lutte, parmi tant d'autres. Salut, c'était Florence du collectif Solidarité aux migrants de Beauvais. Daniel, merci et longue vie à là-bas si j'y suis.
Bonjour Daniel Mermet. Un nombre croissant de militants, d'organisations politiques, d'associations et de syndicats sont aujourd'hui l'objet de poursuites judiciaires en lien direct avec leur engagement citoyen. C'est pourquoi aura lieu un meeting contre la criminalisation du mouvement social le jeudi 3 février à Bordeaux à 20h30, salle Marcel Paul, avec Maurice Rachfus, Jean-Émile Sanchez, Gérard Boulanger et d'autres associations.
Alors voilà, on sort d'une semaine de commémoration intensive de la Shoah. J'ai vu et entendu des témoignages bouleversants. J'espère que beaucoup de gens en auront suivi au moins quelques-uns. Mais je trouve qu'on a occulté vraiment le côté politique. Je déplore vraiment de n'avoir pas entendu rappeler ce qui s'est passé en France en 1936. L'antisémitisme était très vivace. Léon Blum a subi les injures, même les attentats. Et il s'est même trouvé des gens pour dire plutôt Hitler que Blum, plutôt Hitler que le Front Populaire. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose dont on doit se rappeler et qui serait pas mauvais aussi que les jeunes connaissent. Bon, ben merci. À bientôt.
Je voudrais passer ce message. J'ai 70 ans. J'ai assisté, j'ai vécu la bataille de tous mes anciens pour avoir la protection sociale, la possibilité de l'évolution sociale, les congés payés. Chers amis, vous qui travaillez tous, imaginez quelques secondes depuis 1930, 40, 50, 60. Quelle serait aujourd'hui votre façon de vivre si nos anciens auraient continué de faire confiance au pouvoir industriel, financier et politique? Vous faites comme vous voulez. Votre avenir vous appartient. Vous êtes seul responsable de votre vie. Les caisses de la bourse, des assurances, des banques se remplissent, sont pleines à craquer, pendant que vous, votre porte-monnaie se réduit. À vous de choisir, ce n'est pas boire ou conduire, c'est vivre ou mourir. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix.
Oui, donc c'est Roland, 01-43-94-27-99. Oui, au sujet du vote sur le traité européen, toutes les médias censurent les informations sur le fait que le projet de traité européen va privatiser les services publics. Nous voulons informer, sans beaucoup de moyens, des risques, fin des hôpitaux gratuits, de l'école gratuite, les transports vont être privatisés avec des risques d'accident comme en Angleterre, l'électricité, voire les énormes pannes comme Los Angeles, si EDF n'existe plus, la recherche scientifique sera réduite, la culture et les réseaux sera réservé aux plus riches, la santé sera payante, l'écologie va disparaître, la redistribution de réseaux, etc. Le non augmente dans les sondages. Chirac a avancé précipitamment de l'automne au printemps son référendum pour que les progressistes n'ayant pas le temps d'expliquer. Dans notre département, le Val-de-Marne, à l'appel d'attaque de syndicats, de mouvements citoyens, d'associations, de représentants de toute la gauche, nous organisons dans quelques jours, lundi 7 février, à 20h, Jacques Brel, à Fontenay-sous-Bois, boulevard Gallieni, un meeting d'information pour que le non soit majoritaire et qu'ainsi le projet soit enfin discuté dans la population et que demain, les services publics et leur gratuité ne soient pas mis hors la loi par ce traité inhumain qui ne pense qu'aux plus riches. Merci, c'est Roland du Val-de-Marne. Au revoir.
Tous ceux qui, vus de dos, s'éloignaient en chantant, qu'on avait vu passer le long de la rivière, où même les roseaux redisaient leurs prières, que reprenaient plus fort et plus loin les oiseaux, ils viennent les premiers et ne s'en iront pas. Le chemin qu'ils ont fait se comptait pas à pas et disparaissait à mesure. Ils marchaient sur la pierre dure, au bord des champs ils se sont arrêtés, au bord de l'eau ils se désaltéraient, leurs pieds soulevaient la poussière et c'était un manteau brodé par la lumière. Tous ceux qui s'en allaient marchant dans ce désert, et pour qui maintenant le ciel s'était ouvert, cherchaient encore le bout où finirait le monde. Le vent qui les poussait continuait sa ronde, et la porte se refermait. Une porte noire. La nuit.
Tellement d'années ont passé,
et je me souviens quand même de ces ordres.
Achtung, Augen rechts, Augen geradeaus, links um, on a trita marche. Не знаю немецкий язык, я вот 60 лет.
L'allemand. Donc 60 ans, je me suis souvenu de ça. Achtung, Augen rechts.
Там, где я нахожусь. Là-bas, si je suis.
Au loin, dans la fumée, apparaît Stalingrad.
Galina Alexandrovna, Stalingrad.
Flight number 2, arriving from New York.
Stalingrad était-elle trop blessée pour revivre? Peut-être une autre ville l'aurait-on laissée comme un témoignage, mais d'elle était venu le message de l'espoir, d'elle aussi devait venir maintenant le message du courage, car toute la population a voulu être l'ouvrier de sa renaissance. Stalingrad voulait vivre et elle vit. Et dans ses ruines, ce qu'on entend maintenant, c'est le chant immense d'une jeunesse.
Ah. va rencontrer une femme tout à fait étonnante, comme on en rencontre peu dans sa vie. Elle s'appelle Galina Alexandrovna. Galina Alexandrovna est une belle personne, une soixantaine d'années, un peu plus de 60 ans. Elle va dire très précisément son âge, parce que c'est son âge est lié à son histoire, qui est une histoire tout à fait singulière et qui s'illustre par cinq chiffres qu'on peut lire sur son bras en bleu, écrit en bleu. Et ces chiffres sont 6, 2, 0, 8, 4, 62 000, 084. Galina Alexandrovna porte ce tatouage depuis qu'elle est enfant. Elle a été déportée à Auschwitz. Elle est russe. Elle est née dans l'actuelle Biélorussie. Et elle va nous raconter son histoire. Une histoire qui est liée avec, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale, avec la Grande Guerre patriotique, comme disent toujours aujourd'hui les Russes, et qui renvoie à un épisode un peu moins connu de cette histoire, qui est l'histoire des partisans. Comment, après que les armées du Reich aient envahi l'URSS, des partisans se sont organisés, c'est-à-dire des habitants, c'est-à-dire des civils, qui se sont organisés en résistance, un petit peu comme chez nous. L'histoire officielle a dit ensuite que c'était évidemment le pouvoir central et l'armée rouge qui avait organisé ces partisans. C'est plus tout à fait la vérité, selon certains historiens, et selon certaines mémoires. Ni Shagun Azad, ça veut dire pas un pas en arrière, c'était un ordre de Staline. Et puis il y avait aussi une autre phrase qui disait « Il n'y a pas de prisonniers, il n'y a que des traîtres ». Et il y a eu des prisonniers, il y a eu des centaines de milliers, il y a eu des millions de prisonniers soviétiques faits par les armées du Reich à des fins des prisonniers de guerre, environ 5 millions, et quantité de prisonniers civils prélevés dans la population afin de répondre aux nécessités de l'effort de guerre dans les usines allemandes, parfois pour l'armement, mais aussi pour faire fonctionner tout simplement l'industrie et l'économie allemande. Et puis il y eut des personnes comme Galina Alexandrovna qui a été déportée pour d'autres raisons. On rentre chez cette femme, qui est une grande femme, je l'ai dit, qui est retraitée maintenant et qui était dans l'enseignement et qui s'occupe aujourd'hui d'associations d'anciens prisonniers en Pologne. Galina, vous quel âge vous aviez au moment de la bataille de Stalingrad ici?
Во время Сталинградской я не была здесь, я же была уже в Германии.
J'étais pas là pendant la bataille de Stalingrad, j'étais déjà en Allemagne.
А взяли меня, увезли из Витебска. Это белорусский город.
J'ai été prise à Vitebsk en Biélorussie.
Белоруссия. Vous êtes née où?
Я не помню, не знаю. Видимо, около Белоруссии там, то есть около Витебска где-то.
Je sais pas où je suis née, sûrement près de Vitebsk.
Я ведь дошкольницей осталась без семьи и попала.
Parce que moi j'étais orpheline. Et donc je suis tombée en camp de concentration avant d'avoir l'âge d'aller à l'école.
Потому что семья оказалась в партизанской зоне.
Ma famille se trouvait dans la zone des partisans.
À Vitebsk, c'est le pays de Chagall.
Да.
Vous aviez des frères, une maman?
Да, конечно. Вот папы-то уже не было. Его потом все-таки отправили через линию на фронт.
Mon père, il a été renvoyé au front après.
А мы остались бабушка,
мама
и четверо детей.
Et quatre enfants.
Да, вот брат и три сестры. Одна грудная, одна совсем грудного возраста на руках у мамы.
Et l'une était un nourrisson dans les bras de maman. Elle était en âge de téter.
Et vous avez donc été arrêtée en 1943 à Vitebsk.
И через какое-то время рассортировали, кто имеет отношение к партизанским.
И après, au bout d'un certain temps, ils essayaient de comprendre qui avait des relations avec des familles de partisans.
Увезли в концлагерь.
Et ceux-là, ils les envoyaient en camp de concentration en Pologne.
А мы как бы виноваты.
Et nous, on était comme coupables.
Да. Дело в том, что у бабушки в партизанских отрядах было много родственников.
Parce que ma grand-mère avait beaucoup de membres de sa famille dans les détachements partisans.
Да. Галина, c'était quoi les détachements partisans?
Партизаны, какое-то количество их оставляли специально для действий в лесах. когда придут враги, то чтобы они наносили удары по ночам, например, чтобы они
партизан, ce qu'on met dans les forêts, pour si jamais il y a une attaque, qu'ils puissent être là.
Оставляли оружие.
On leur donnait des armes.
Были вырыты землянки.
On creusait des abris sous la terre.
И потом очень трудно, и маленькие, ну вот как уберечь, чтобы там, предположим, там не кричали, не шумели, чтобы не было слышно.
Et puis le problème, c'est que les petits, il fallait qu'ils se taisent, il fallait pas qu'ils crient, les enfants, c'est très difficile de les maintenir calmes.
Я помню, когда вот налетали самолеты.
Et je me souviens, quand les avions volaient.
Да, летом-то там же лес.
En été.
И, но слышно было. Так нас уговаривали, нас уговаривали.
On entendait les avions,
чтобы мы не шумели.
On nous disait de pas faire de bruit.
Чтобы не знали, что там есть, не бомбили.
Pas qu'ils sachent qu'il y avait des gens et pour qu'ils bombardent pas, quoi.
Ces partisans étaient des gens qui étaient au parti, qui étaient liés avec l'armée rouge.
Конечно,
bien
конечно.
Sûr, bien
Они
sûr.
Подрывали эшелоны с врагами.
Ils essayaient de faire sauter des convois. Ils détruisaient les armes des ennemis.
Фашистов убивали, если
могли. Ils tuaient des fascistes, s'ils pouvaient le faire.
Какие давали они действия по заданиям?
Parce qu'ils agissaient sur mission.
Оказалось, они же на территории занятые немцами.
Parce que le territoire était déjà occupé par les Allemands.
Кстати, что здесь плохо? Что иногда...
Ce qu'il y a de mal,
что
là,
иногда,
c'est que
parfois... Партизаны, предположим, там убили 10 человек.
Par exemple, les partisans ont tué 10 personnes.
Там, немцев. А они за это сожгли потом все село.
Et après, en représailles, ils brûlaient tout le village.
И уничтожили уже много-много людей.
Ils exterminaient énormément de gens.
C'est comme ça qu'il y a eu des quantités d'oradours sur Glan en Biélorussie. Un tiers de la population biélorusse a été détruite. Et donc ça, c'était des sortes de commandos, ces partisans de guérilla. Il faut comprendre qu'en juin 41, la rapidité et la brutalité de l'attaque allemande cloue sur place littéralement les forces soviétiques. Et il faut attendre l'hiver 42 pour que ces fameux partisans organisent leur première action d'envergure. Alors, on a beaucoup héroïsé, évidemment, ces partisans, mais il se pourrait bien qu'ils aient été moins soumis ou beaucoup moins soumis que Moscou ne l'a dit par la suite. En tout cas, ce qui est clair dans ce que dit Galina Alexandrovna, c'est qu'il y avait... La répression a été d'une violence extraordinaire. En Biélorussie, d'où elle est originaire, en 1943, on évalue le nombre de partisans à 360 000 à la fin de l'année 1943, mais les unités allemandes brûlent les villages. 2500 villages de Biélorussie sont brûlés à la façon Oradour sur Glane, c'est-à-dire, vous avez compris, avec des habitants dedans. Et il s'agissait bel et bien d'opérations d'extermination. Au procès de Nuremberg, des pièces ont été produites par l'Obergruppenführer von dem Bach Zelewski, responsable des opérations SS anti-partisans en Union soviétique. Ces unités étaient composées de criminels endurcis chargés de mettre en application, je cite, les directives de Himmler selon lesquelles il fallait diminuer en quelques années la population slave de 30 millions. Et il ne s'agissait pas donc d'opérations militaires classiques, mais bien d'opérations d'extermination frappant d'abord une population civile non armée, et Galina Alexandrovna représente bien cette volonté d'extermination des Slaves.
Ну, понимаете, не так уж и много фактов, сколько вот состояние
ужасного страха.
Sept ou huit ans quand vous avez été arrêté.
Да, если бы были среди взрослых, жили вот в семье, то в это время уже люди все понимают и помнят. А нас ведь держали там по возрасту. Мы были только вот одного возраста, поэтому мы многое-многое не понимали.
Nous, on était entre nous, enfants, et si on avait été avec les adultes, on aurait su notre date de naissance, etc. Mais là, on savait rien, on savait juste qu'on avait tous le même âge.
Нет, вот в концлагере у нас такие были. Это сколько было людей?
Это такой. Ça, c'est le nombre de gens qui avaient dans le camp de concentration. 60.
2084. У сестры 85.
Et ma sœur, elle avait 62 084. Et ma sœur, elle était 62 085. Et l'autre 62 086.
В таком количестве, какие же там фамилии, имена?
Avec un nombre pareil, on peut
attendez,
pas
savoir. On a tatoué ce numéro sur votre bras, Galina, quand vous aviez 7 ans.
Да,
oui,
да.
Oui, oui.
А вот девочка, которая на руках была у мамы,
et
грудная.
La toute petite qui était un nourrisson dans les bras de maman.
У нее такая была ручка у маленьких, что нигде. Таким вот здесь вот на ножке делали.
Elle avait un petit bracelet. On lui avait aussi gravé sur la cuisse.
Грудной. И вот
c'était
когда
un
мама, я помню, как она говорит, мне на колесе, не трогайте ребенка.
Et je me souviens très bien, ma mère qui disait,
убежит и хохочет.
Qui disait, ne touchez pas à mon bébé, ne touchez pas à mon bébé. Et eux, ils riaient, ils disaient, c'est interdit, les mères, partez.
Et le motif de votre arrestation, c'était partisan.
Да, 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 что бабушка, oui. У бабушки, oui. Сыновья
parce
и внуки у партизана.
Les fils et les petits-fils de ma grand-mère étaient partisans.
Ее фамилия Капустина. Ой, простите.
Et leur nom de famille, c'est Капустин.
Что там много.
C'était très connu. C'était notoriété publique qu'il y avait beaucoup de Капустин dans les partisans.
Вы знаете, сначала, когда мы впервые встретились с немцами,
vous savez, la première fois qu'on a vu les Allemands,
мы увидели, они на мотоциклах были, это же в лесу.
On était dans la forêt, et eux, ils étaient en moto, ils nous ont encerclés.
Всех собрали вместе, построили.
Et ils nous ont tous réunis comme ça.
И мы испугались, на самом деле так или нет, но казалось, что нас расстреливают.
Et on a eu peur, et on avait l'impression qu'ils allaient nous fusiller.
И нас построили, погнали строем.
Et on nous a poussés comme ça en colonne.
Да. И вот и так дошли до Витебска.
Et là on est arrivé jusqu'à Vitebsk.
Вот там оказался потом вот этот лагерь, вот такой, как загон просто, как для скота.
Il y avait un camp, c'était une espèce de hangar pour le bétail à Vitebsk, qui était à l'air libre, c'était il y avait pas de toit.
И вот бабушку сразу ее в сторону увели, а это мамина мама.
Ma grand-mère, c'est ma grand-mère maternelle, elle a été tout de suite mise de côté, écartée.
Ну и сказали, что там партизаны.
Et ils ont dit, ça c'est les partisans.
Чтобы их убивать.
Et on pensait qu'ils voulaient les tuer.
И тогда мама стала плакать и просить, чтобы бабушку вместе соединили.
Et ma mère s'est mise à pleurer et a demandé à ce que notre grand-mère reste avec
да.
nous.
Так вместо того, чтобы бабушку одну старую, которую, от которой никакого вреда уже никому не может быть, перевести к нам, нас, всю семью перевели к ней.
Et au lieu de prendre ma grand-mère qui pouvait absolument pas faire aucun mal à qui que ce soit, vu son âge, au lieu de la ramener à nous, ils nous ont tous amenés avec elle de l'autre côté.
И вот когда нас привезли в Варшаву, никто не объяснял
quand
ничего.
Quand on nous a emmenés à Varsovie, personne ne nous expliquait rien.
В который скот возит, как у нас
говорят, телячьи. Des wagons à bestiaux.
Да. Вот. И, а как мы ехали? Ведь, ну, даже... Человеку надо иногда ведь выходить. Вот я этого понятия не понимаю.
Et je peux pas vous parler de la notion de faire ses besoins, puisqu'à aucun moment le train s'est arrêté pour nous laisser sortir faire nos besoins.
Знаю, что было страшно, что много больных, какие-то слезы, какие-то крики.
Il y avait beaucoup de malades, beaucoup de larmes, beaucoup
de cris. Все хотели есть.
Tout le monde voulait manger.
А когда нас высадили,
et quand on nous a fait sortir
из поезда,
du
из
train,
вагонов,
des wagons,
мы увидели огромное количество голов людей.
On a vu...
То есть, насколько хватал взгляд, столько людей было.
On a vu énormément de têtes de gens.
Потом сказали, что это Варшава.
Et on nous a dit, c'est Varsovie.
Нас раздели.
Et après, on nous a déshabillé.
И вели, ну, правда, не здесь, сначала куда-то в санпропускники, а потом вели голыми, буквально раздетыми по улице.
Et après, on nous faisait marcher, comme ça, dehors, tout nu.
И тоже вот люди смотрели, как на...
Dans la rue. Et les gens nous regardaient.
Dans la rue.
На улице, да, куда-то вот. Видимо, с одного места в другое куда-то.
Pour aller d'un lieu à un autre, dehors.
Вот потом куда-то вот нас гнали, вот потом стали вот эти номера накалывать.
Après, on nous a poussé comme ça, et puis on a commencé à nous piquer, à nous tatouer les numéros.
Да. Ну и... Вот сначала нас всех в лагерь отправили.
Au début, on nous a tous envoyés au camp.
А вот Аушвиц.
Аушвиц.
Это вот из Варшавы везли.
De а Auschwitz,
это около Кракова где-то.
Et Auschwitz, c'est près de Cracovie.
Вот это был самый большой концлагерь.
C'était le plus grand camp de concentration.
Трехэтажные нары.
Et on avait des espèces de lits à trois étages, des lits
На которых была солома, больше ничего, только солома.
Il y avait juste de la paille dessus.
И вот я помню, что мы на второй этаж вот на нарах остались с бабушкой вдвоем.
Et je me souviens qu'avec ma grand-mère, on était sur la deuxième planche, au deuxième étage.
И не знали, где остальные. Оказывается,
Et on savait pas où étaient les autres.
Мамы и трое детей были в блоке, в так называемый ревир, это для больных.
Et il s'est avéré que ma mère et les trois autres étaient dans un bloc pour les malades.
Mais vous n'étiez pas dans la partie de Birkenau, vous n'étiez pas dans la partie avec les Juifs.
Нет.
Non.
Потому что ils держали отдельно, их уничтожали.
Non, parce qu'ils les mettaient à part et ils les exterminaient.
Увидели, впереди идут женщины в полосатых одеждах.
On voyait devant nous des femmes avec вот, des pyjamas rayés.
Деревянных таких вот такой обуви.
Avec des espèces de chaussures en bois et elles étaient rasées.
Уборов,
elles n'avaient pas de cheveux.
Совсем. И вот они плачут и кричат нам, женщины, берегите детей.
Et elles criaient, les femmes, protégez vos enfants.
Не отдавайте детей.
Ne donnez pas les enfants.
Потому что у них-то уже отняли детей.
Parce que elles, leurs enfants avaient été pris.
А мы еще не понимали, что нас ждет.
On comprenait pas ce qui nous attendait.
Вот среди малолетних, по нашим
chez
данным.
Chez les mineurs, les petits, d'après nos données.
Выжил каждый десятый.
Il y en a un sur dix qui a survécu.
И только недавно я узнала, что меня спасло.
J'ai appris seulement récemment que ce qui m'a sauvée.
Выбрали детей высоких.
C'est qu'ils choisissaient des enfants, les enfants de grande taille,
светлоглазых,
avec les yeux clairs,
светловолосых,
et les cheveux clairs,
которые, по их мнению, на арийцев похожи.
Qui, d'après eux, ressemblaient à des Ariens.
И вот из нас сделали такой детский лагерь при госпитале.
Et nous,
и брали у нас кровь.
On s'est retrouvés dans un jardin d'enfants près de l'hôpital militaire et on se faisait prendre du sang. Et,
вот, что и спасло меня.
Et c'est ça qui m'a sauvé ainsi да. Que ma sœur.
А вот кто был низкорослый,
et ceux qui étaient de petite taille, qui avaient le teint plus mat et les cheveux plus mat.
Для проведения опытов.
Eux, ils les prenaient pour faire des expériences médicales sur
eux. Et они, конечно, погибали.
Et bien sûr, ils sont morts.
Dans quelles conditions vous viviez?
Вот, так же было, когда мы были в одном детском лагере в Потулице.
Quand on était à Потулице, dans le camp des enfants,
держали как.
Là où on nous gardait comme donneurs de sang.
Вот удивительно, что казалось бы, нас должны были бы держать в каких-то таких, ну, благоприятных довольно, потому что все-таки кровь же брали. Должны бы кормить хорошо, да? Mm. На самом деле этого, конечно, не было.
On pourrait imaginer que puisqu'on était donneur de sang, on aurait dû être bien nourri et vivre dans de bonnes conditions, mais c'était pas du tout le cas.
Если заболевал человек, его не лечили.
Si quelqu'un était malade, il était pas
soigné. Его только отделяли от других. И если он выживал,
on le mettait à part, et s'il survivait,
он был ценным, потому что он
il avait une valeur.
Он вырабатывал себе такие качества,
parce que ça voulait dire qu'il avait produit
ну,
des anticorps,
можно передать потом по наследству.
Et qu'il pouvait après transmettre.
Mais vous étiez uniquement entre enfants.
Не просто только дети, а дети одного возраста.
C'est например, pas, c'est pas seulement entre enfants, c'est entre enfants du même âge.
Вот что. Вот, например, сестра была у меня par на три года моложе.
Qui avait trois ans de moins que moi.
Она была где-то отдельно.
Elle était à part.
Только потом нас соединили, потому что у нас.
On nous a rassemblés quand on a été libérés. Et on avait les numéros conjoints.
Они же нас ну, идеологически обрабатывали. Вот нам, например, говорили, что коммунисты там рогатые, например. У них так рога, на лбу звезда горит, а что они детей уничтожают.
Et il y avait une propagande idéologique, ils essayaient de nous travailler idéologiquement en disant que les communistes avaient des cornes, qu'ils avaient une étoile sur le front qui brûlait et qui mangeait les enfants.
Нас обучали только песням немецким, молитвам.
On nous apprenait des chansons et des prières en allemand.
И мы пели, не понимая, что поем.
Et on chantait, mais on comprenait pas ce qu'on chantait.
On vous avait gardé parce que vous étiez des beaux enfants blonds avec des yeux clairs et qu'en prenant votre sang, dans les prises de sang, On espérait régénérer la race aryenne.
Дело в том, что вот там есть такой, оказывается, был приказ Геринга, чтобы увеличить арийскую расу.
Il y avait un nombre de Göring pour augmenter le nombre d'Ariens.
За счет прибалтов.
Sur le compte des Baltes.
И славян.
Et des Slaves.
Вот так вот, вот таких похожих найти.
Voilà. Parce qu'il fallait trouver des gens ressemblants.
Вот. Потому что, говорит, среди немцев очень много... Ну, мы, как мы бы сейчас сказали, как Гитлер, какой он ариец.
Parce que, en fait, chez les Allemands, il y avait beaucoup comme Hitler. Quel Arien peut-il bien être, Hitler?
А надо, значит, вот, чтобы внешне это арийцы были.
Il fallait des Ariens avec un physique d'Arien.
Vous aviez donc 7 ans, 8 ans, 9 ans, de 1943 à 1945. Mais vous étiez donc séparés de votre mère?
Конечно.
Bien sûr.
Et ее судьба неизвестна.
Et on ne connaît pas son destin.
Et vous étiez, et vos frères et sœurs?
Вот, значит, вот я, вот это вот сестра, Вера.
Ma sœur Vera, plus jeune, et mon frère.
Мы были вместе.
On était
Даже во втором
ensemble.
Лагере были, где вот кровь брали.
Dans le deuxième camp, là où on prenait le sang, on était ensemble.
А потом, поскольку он чуть постарше,
après, comme il était un peu plus
âgé, нас разлучили.
On nous a séparés.
Когда наша армия стала приближаться,
quand notre armée commençait à s'approcher,
тогда вот этих детей постарше стали брать.
On prenait les enfants plus âgés.
Их пускали, связывали, пускали впереди наступления нашего. Ну вот здесь они так делали с котом, вот скажем там коров вот так пускали, а там вот детей.
Et en fait, ils les mettaient comme quand on met par exemple des chats ou des vaches, ils les mettaient devant quand l'armée rouge arrivait pour pas que l'armée rouge tire.
Donc, ils ont utilisé ces garçons, ces enfants un peu plus grands, pour les mettre devant eux comme boucliers humains au moment où l'armée rouge arrivé. Votre frère a été utilisé comme ça.
Да. Ну, oui. Но он случайно оказался живым.
Mais par miracle, il est resté en vie.
А брат нас нашел уже позднее, в 47-м году.
Et mon frère nous a retrouvés plus tard, en 47.
Но он сам был в детском доме.
Et lui-même était dans un orphelinat.
Поэтому не мог приехать, как и мы не могли.
Il pouvait pas venir, et nous non plus, on pouvait pas le rejoindre.
И вот так получилось, что мы жили в разных местах.
Et on a vécu dans des endroits différents.
И за всю жизнь 5 раз только встречались.
Et on s'est vu que 5 fois dans toute notre vie.
Переписывались, конечно.
On s'écrivait, bien sûr.
À quoi ressemblait le camp?
Да мы же... Вот ваши вопросы говорят о том, что, ну, как будто бы жизнь шла как сейчас. На самом деле, мы же ничего не понимали.
On dirait que vous imaginez que la vie allait comme maintenant, mais nous, on comprenait rien.
Мы думали, что только строем можно ходить. Мы свободно никуда не выходили. Нам не разрешалось это.
On ne marchait qu'en colonne. On pouvait jamais, jamais marcher librement nulle part.
Et только вот когда работали, так чем-то занимались. Вот огромное здание.
C'était un très grand bâtiment.
Такое серое, такое... Ну,
gris.
Да. Неприглядное, конечно.
Vraiment pas beau.
Особенно то, что проволока вокруг, это же не
украшает,
никого не украшает.
Ça décore
rien du tout. Это имеется в виду в детском. А в Освенциме концлагерь, там я даже плохо помню. Там вот, я помню вот эти
ça,
вот бараки.
Ça, c'était le camp d'enfants, mais Auschwitz, je me rappelle pas bien, je me rappelle ces baraques.
Да, там такие длинные бараки,
des baraques vraiment très longs et très nombreux.
Comment vous avez fait pour survivre, pour garder le moral, pour...
Ну, настроение, мы просто ничего не понимали. Мы не знали, что есть хорошие взрослые люди. Потому что вот самое страшное, нам казались они все плохими. И мы боялись всех подряд.
Mais vous savez, on ne pouvait pas du tout comprendre. On ne savait pas qu'il pouvait y avoir une autre vie possible. On ne savait pas qu'il pouvait exister des adultes bons. Parce que pour nous, tous les adultes étaient forcément méchants.
Думали, что это все враги. Взрослые дети, это враги.
Que les adultes, c'était des ennemis.
Вот. А когда нас наши освободили, вот эту сцену я хорошо помню. В общем, стали налеты учащаться, вот они все убегали куда-то, прятались, а мы оставались одни.
Je me souviens très bien de la libération.
Не понимали, что
Il y avait de plus en plus d'attaques, alors eux ils partaient, on s'est retrouvés tout seuls.
И не знаю тоже, сколько мы лежали.
Et je sais pas combien de temps on est resté comme ça.
Только знаю, что утром.
Mais je sais que le matin.
Еще темно.
Il faisait encore sombre.
Вдруг открылась дверь.
Tout à coup la porte s'est ouverte.
И мы страшно перепугались, думали все. Et là, немцы нас нашли.
Et on a eu très très peur, on s'est dit les Allemands nous ont trouvés et maintenant ils vont nous exterminer.
Но вместо этого услышали.
Et au contraire de ça, on a entendu.
Ребята, здравствуйте.
Русский, да?
Русский,
да. Entendu en russe. Русский. Ребята, здравствуйте, bonjour, mes amis.
Да. Мы, конечно, мы все равно их боялись, потому что это взрослые.
Mais on avait peur d'eux, parce que c'était des adultes.
Но так приятно было услышать
русский. C'est tellement agréable d'entendre notre langue natale, le russe.
Дали нам какие-то давать там, что у них там это было, у самих не знаю, что было.
Ils ont commencé à nous donner ce qu'ils avaient.
Сахара, чего-то.
Un morceau de sucre.
Но мы по стойке смирно становились.
Et nous, on était comme ça, bien droit. Et
очень боялись, когда кому-то лично обращаются, потому что никто с нами так не разговаривал.
On avait très peur quand ils s'adressaient à nous personnellement, parce que jamais un adulte ne s'était adressé à un enfant de façon individuelle.
Только команды.
C'était toujours des ordres,
причем такие,
des commandements collectifs.
Вот столько лет прошло,
tellement d'années ont passé,
а я помню эти команды.
Et je me souviens quand même de ces ordres.
Achtung, Augen rechts, Augen gerade aus, links um, on a dritter Marsch. Вот вы знаете, не зная немецкий язык, я вот 60 лет...
L'allemand. Donc, 60 ans, je me suis souvenu de ça.
Achtung, Augenrechts. В голову маленьких детей.
Voilà comment ça a été rentré dans la tête de petits enfants.
Regard à gauche, regard à droite, geradeaus. Vous voilà libéré. Vous avez 9 ans. Vous êtes récupéré par les soldats de l'armée rouge. Et qu'est-ce que vous devenez?
Детский дом.
Орфелина.
Вот они к нам так относились, вот как будто бы мы, о нас надо как-то заботиться очень.
И ils se comportaient avec nous vraiment avec beaucoup de soin, les autres enfants, ils se souciaient de nous.
Это чуть ли не мы победили фашистов.
C'était comme si nous on avait vaincu les fascistes.
Особенно вот у кого номера-то не у всех были.
Surtout ceux qui avaient des numéros.
Это кто вот через
Освенцим n'avait pas des numéros. C'était ceux qui étaient passés par Auschwitz qui avaient des numéros.
Нет.
Les autres non.
Donc vous voilà rentré en URSS. Vous grandissez dans quel esprit par rapport au régime, par rapport à Staline?
Конечно, долгие годы
мы nombreuses années.
Для нас и Сталин был, героем.
Pour nous, Staline était un héros.
Положительным человеком.
Quelqu'un de positif.
Нас же когда освобождали, то говорили, что это он все сделал.
Libéré, on nous a dit que c'était lui qui avait fait tout ça.
Потом ведь победа связана со Сталином.
Et vraiment la victoire était liée à Staline.
Что бы мы вот в детском доме мы воспитывались, это Сталин.
À l'orphelinat, on était éduqués sur la voie de Staline.
Конечно,
c'est Staline qui nous avait donné tout ça.
Мы в это все верили, естественно.
Et on croyait.
Mais ça dure jusqu'à quand?
Вот когда... В каком же? В 56-м году. В 56-м, кажется, культ личности, когда разоблачили.
C'est en 56, je crois, qu'on a dénoncé le culte de la personnalité.
Я еще не хотела в это верить.
Je voulais pas y croire.
Трудно было как-то сразу.
C'était difficile encore.
Но вот особенно, конечно, вот когда развенчали все связанное с этим, когда началась перестройка. Это к 90-м годам, в начале
90-х годов. Au début des années 90, quand la перестройка a commencé.
Потому что потом-то я узнала и об этих вот людях, вот старших, которые страдали. Это вот там пережили столько.
J'ai su à ce moment-là qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient souffert.
И здесь продолжали страдать.
Mais jusque-là, Galina, vous êtes une femme cultivée, vous êtes une femme qui a une expérience rare. Jusque-là, jusqu'à la perestroïka, vous ne saviez pas ou vous ne vouliez pas savoir ce qu'était le goulag, ce qu'étaient les répressions staliniennes qui s'étaient prolongées sous Khrouchtchev et sous les autres.
Об этом же не говорили.
On n'en parlait pas.
Тогда же у нас все замалчивалось. У нас не было
никаких... Tout était tu.
Это только вот в последние 90-е годы.
Non, c'est seulement à partir des années 90 qu'on a su ça.
Les frères et sœurs, vous les avez retrouvés?
Вот с сестрой нас мы же вместе, только в разных группах.
Ma sœur, on était ensemble. On était dans des groupes différents, mais on était ensemble. Ces numéros nous ont rassemblés.
А брат?
Et les tatouages, comme le tatouage que vous avez sur le bras.
Да, и мы никогда с ней не разлучались. Она и сейчас живет рядом с нами.
Et elle vit juste à côté.
Да, мы никогда не разлучались. Она всегда шла за мной.
Elle a toujours été derrière moi. Je suis allée à l'institut pédagogique. Elle a fait pareil. Je suis allée à l'institut après.
Elle est venue.
Après, j'ai déménagé ici.
Et elle n'a pas tant
de temps. Et elle est
venue ici. Et puis, Galina Alexandrovna nous a offert des chocolats. Et avec Aude, on est reparti à travers Volgograd. Merci à Galina Alexandrovna, merci à Aude Merlin, notre traductrice bien-aimée et amie. Merci aussi à Marc Perron pour sa musique. des livres sur ce sujet. Il y a toujours le Stalingrad d'Anthony Bivor, B-E-E-V-O-R, aux éditions du Fallois. Et puis, Vie et Destin de Vassili Grossman, c'est en pocket, toujours sur ce sujet. À voir, selon Pascal Pascariello, le film de Peter Watkins, Edward Munch, non pas Hans, mais Munch, le merveilleux peintre norvégien, film qui sort ces jours-ci. À la technique aujourd'hui, Nadège Antonini et Mathias Saléon, l'équipe de La Basse Si J'y Suis, c'est Yann Chouquet, c'est Pascal Pascariello, c'est Antoine Chao et c'est Christophe Imbert qui s'occupe de répondeurs, dont le numéro est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, le mail daniel.mermet@radiofrance.com. On se retrouve demain pour La Basse Si J'Y Suis. À 17h sur La Basse Si J'Y Suis, sur France Inter, c'est pas la même chose quand même, pas tout à fait encore, on n'a pas colonisé toute l'antenne, dans 1 minute 30 de pub, exactement, vous retrouvez Frédéric Bonneau et son charivari. Salut.